Merci Alain. Je voudrais commencer par offrir mes remerciements effectivement à Alain pour cette présentation bienveillante, à Alain et Olivier pour cette invitation à vous présenter nos recherches et à Jean-Sébastien pour ses capacités d'organisation considérables. Comme Alain vient d'expliquer, ceci nous permet de confirmer l'amitié intellectuelle entre le département de français de Cambridge et l'équipe Zola à Paris. Une amitié anti-Brexit, si j'ose le dire, forgée initialement par mon ancien directeur de thèse, Robert Lethbridge, auquel nous allons dédier le dossier qui paraîtra dans les cahiers en septembre et qui mettra en lumière les fruits de deux réunions de l'été 2015, l'une à Cambridge, l'autre à l'ENS rue d'Ulm, fondée par un nouvel accord entre l'Université de Cambridge et PSL. Du côté britannique, j'ai partagé les devoirs d'organisation pour ces petits colloques et ce dossier avec ma collègue, Madame Claire White, dont je fus, il y a un certain temps, directeur de thèse chez Zola, généalogie oblige, n'est-ce pas? Et nous espérons que nous aurons à l'avenir l'occasion d'élargir cette connexion entre Cambridge et l'équipe Zola. Ceci dit, nous voudrions aujourd'hui vous présenter nos individuels projets de recherche actuels et de vous les présenter en ordre chronologique. D'abord, le mien sur la débâcle. Ce 19e roman des Rougon-Macquart, dont l'énorme importance à l'époque a été un peu supprimée ou refoulée par l'expérience particulière de la guerre au XXe siècle. Puis, celui de Claire, une analyse du premier des trois villes, Lourdes, dans le contexte de son nouveau projet sur Zola et l'idéalisme. Comme par hasard donc, nous suivrons le chemin d'un cycle à l'autre en étudiant ces deux romans entre lesquels pivote bien entendu le docteur Pascal. Impossible bien sûr d'analyser en 45 minutes tous les aspects de ce gigantesque roman de la guerre de 70 et de la Commune. Je voudrais tout simplement étudier la crise de la fraternité républicaine dans le dénouement historique de cette histoire d'une famille sous le Second Empire, avant la conclusion méthodologique du docteur Pascal. Cette crise de fraternité républicaine, métaphorisée dans le rapport intime entre ces deux protagonistes, Jean Macquart et Maurice Levasseur. Ceci, non sans ironie, il faut le dire, deux jours avant le premier tour des présidentielles, n'est-ce pas? L'analyse de cette métaphore entre famille et politique me permettra donc, d'une part, de faire le pont entre mes recherches actuelles sur la débâcle et mes recherches précédentes sur la représentation romanesque du mariage, y compris dans les romans de Dr. Mouret, et d'autre part, ce qui est peut-être plus intéressant pour vous, de souligner dans cet esprit non seulement anti-Brexit, mais aussi anti-Trump, l'exemplarité de Zola pour un certain genre de critique anglophone. Malgré les différences entre les traditions récentes de la critique littéraire dans les mondes francophones et anglophones, Émile Zola représente un exemple particulièrement riche d'un auteur qui inviterait un mariage fécond entre ces traditions. Si l'on arrive mal à imaginer comment assimiler ou traduire ces anglicismes « gender studies » et « cultural studies », et même si on devait les assimiler, on trouve également difficile d'identifier un auteur littéraire qui offrirait une ressource plus ample dans ces deux cas. En fait, les écrits de Zola se consacrent volontiers à une approche qui conjoint la poétique romanesque et l'histoire culturelle, car l'œuvre de Zola se situe au moment de sa production dans la seconde moitié du XIXe siècle, à la lisière entre la littérature stricto sensu et une culture de masse lato sensu de plus en plus puissante. Et malgré la résistance et la persistance du terme anglophone « gender » et les manifestations de longue durée entre les féminismes anglo-américains et français, personne ne nierait l'importance des groupes de recherche français dans ce domaine, bien sûr. Symbolique, et plus que symbolique à cet égard, serait l'énorme projet de Michel Perrault et Georges Duby, « Histoire des femmes en Occident », suite à « L'histoire de la vie privée », édité par Philippe Ariès et Duby. Dans les deux cas, le quatrième tome, dirigé par Perrault et Geneviève Fraisse pour l'histoire des femmes en Occident et par Perrault pour l'histoire de la vie privée, décrit un XIXe siècle que reconnaîtraient tout de suite les lecteurs de Zola. La critique zolienne reconnaît depuis longtemps l'importance de cet axe dans l'analyse des romans de l'auteur des Hugo Macquart, cette série dont la structure macro-narrative est dictée par la logique même de la reproduction hétérosexuelle. L'Eros et la femme, chez Zola, par Chantal Bertrand-Jennings, ne serait qu'un premier exemple. Parmi les multiples articles pertinents qui ont paru dans les cahiers naturalistes, contentons-nous de citer deux dossiers spéciaux. Émile Zola, lecteur au féminin, en 95, et figure du féminin, en 99. Si Zola reflète de façon mimétique les formes du pouvoir propre au Second Empire, en menant à terme sa série pendant les premières décennies de la Troisième République, il anticipe également un 21e siècle naturaliste, c'est-à-dire une nouvelle ère qui profitera d'un principe de rationalité qui exigera des avancements scientifiques et sociaux. On sait très bien combien il est difficile de calibrer les limites de la modernité de la société de la Troisième République en ce qui concerne les rapports entre hommes et femmes. D'une part, elle finit par inclure les femmes dans ses réformes de l'éducation nationale. D'autre part, les femmes n'auront pas accès au suffrage universel avant la fin de ce régime. Et c'est dans cette situation ambiguë que paraissent les romans des Rougon-Macquart et les séries qui suivent. S'il est ridicule de surestimer les avancées réalisées par ce régime, il serait également indigne de perdre de vue les progrès, même symboliques, dans bon nombre de domaines de la vie publique auxquels les femmes auront de plus en plus accès, malgré la non-linéarité de cette histoire. Comment situer la représentation zolienne des femmes dans ce contexte social ? Ici, comme ailleurs, ce mode de représentation naturaliste se trouve coincé entre deux impératifs, l'un descriptif, l'autre prescriptif. Car cette littérature naturaliste, qui se veut description mimétique des réalités sociales de la modernité, trouve dans la politique de sa sociologie fictive, mais critique, le désir d'imaginer autrement ces dures réalités. La représentation des hommes et des femmes s'articule aussi sous la forme ambivalente exigée par la cohabitation de ces deux impératifs. Cette question de la différence sexuelle sous-tend la réflexion critique de Zola dès le début de sa série face au patriarche de la fiction mimétique, Balzac. Comme vous voyez, Balzac dit que l'idée de sa comédie, lui, est venue d'une comparaison entre l'humanité et l'animalité. Un type unique transformé par les milieux. Saint-Hilaire. Comme il y a des lions, des chiens, des loups, il y a des artistes, des administrateurs, des avocats, etc. Mais Balzac fait remarquer que sa zoologie humaine devait être plus compliquée, devait avoir une triple forme, les hommes, les femmes et les choses. L'idée de réunir tous ces romans par la réapparition des personnages vivants, mon œuvre sera moins sociale que scientifique. Mon œuvre à moi sera tout autre chose. Le cadre en sera plus restreint. Je ne veux pas peindre la société contemporaine, mais une seule famille en montrant le jeu de la race modifie pas les milieux. Balzac dit qu'il veut peindre les hommes, les femmes et les choses. Moi, des hommes et des femmes, je ne fais qu'un, en admettant cependant les différences de nature, et je soumets les hommes et les femmes aux choses. Si la différence entre sexe et genre est bien entendu une différence entre nature et culture, Zola prend ses distances familiales par rapport à Balzac en mettant l'accent sur le scientifique, ou biologique, ou naturel, dans son lexique de famille et de race. Mais à l'intérieur de cette superstructure biologique, à l'intérieur de ses fictions, les différences et les mutations sociologiques des milieux s'imposent souvent dans nos réponses analytiques aux détails des intrigues zoliennes. Le sommet historique de la série, la débâcle, offre un bel exemple d'un texte où un seul personnage, Jean Macquart, rappelle le lien entre ce 19e roman et l'histoire naturelle de la famille des Hugo Macquart. Un seul personnage parmi ce panorama d'une nation vaincue, de toute une France à refaire. Si l'on est tenté de trouver dans cette assertion fameuse des hommes et des femmes, je ne fais qu'un, un prélude à l'androgynie par laquelle Zola culpabilise la décadence du Second Empire, on ne devrait pas oublier les ramifications philosophiques de cette observation. car si Zola doit admettre les différences de nature entre les sexes, il insiste, malgré les différences sexuelles, sur l'homogénéité de l'humain, devant les forces du non-humain, des inhumains, du concret et du matériel. Ce langage de l'homos et de l'hétéros trouve un écho pertinent dans un modèle de la similitude et de la différence qui repose sur une distinction entre le social et le sexuel. Impossible, en effet, de comprendre les analyses queer et féministes de la littérature au monde anglophone dans les décennies récentes sans faire référence au travail d'Eve Kosofsky-Sedgwick, qui se sert du concept de l'homosociabilité qu'il définit ainsi. Homosocial est un terme dont on se sert de temps en temps en histoire et en sciences sociales pour décrire les liens sociaux entre personnes du même sexe. C'est un néologisme qui trouve ses origines, bien sûr, dans une analogie avec le mot homosexuel et qui, de façon également évidente, tient à distance de ce terme. De fait, il s'applique dans notre société aux activités masculines, male bonding, n'est-ce pas, qui se caractérisent souvent par une homophobie intense, par une peur et une haine de l'homosexualité. Bon nombre de 19e-istes comprennent l'idéologie de la patriarchie comme un pacte, voire un complot, entre l'homosociabilité et l'hétérosexualité. Élément normatif dans ce quadrilatère homo-hétro plus social-sexuel. La cérémonie de mariage, typique du 19e siècle, offre un emblème éloquent de ce contrat entre l'homosocial et l'hétérosexuel, contrat soutenu par la logique du code Napoléon. S'y trouve un nœud où se tisse le lien hétérosexuel entre les jeunes mariés, sur le plan horizontal de l'amour romantique entre deux individus de la même génération, et entre beau-père et gendre, un lien homosocial qui gère la transmission verticale et intergénérationnelle de la fiancée entre père et mari. Bien des critiques ont souligné le pouvoir hétérodoxe de l'homosexualité et sa politique de résistance, non seulement historique, mais aussi culturelle. Vous aurez déjà compris donc que le quatrième terme de cette matrice devrait être, ce que nous allons nommer l'hétérosociabilité, c'est-à-dire le champ de rapport entre hommes et femmes qui sont d'ordre social, professionnel surtout, et non pas sexuel. Et ce modèle nous permet de resituer les romans d'Octave Mouret, Poubouille et Au bonnet des dames, à mi-parcours dans la série, et les héroïnes Caroline Edouin et Denise Baudu dans un nouveau contexte historique, entre les réformes des premières années de la Troisième République, date clé dans l'histoire de l'enseignement des filles, d'une part, et d'autre part, les présages d'une future égalité entre hommes et femmes dans les rares cas où les femmes de la Belle Époque s'imposeront dans la sphère publique. Dans un tel contexte, Zola explore, avec les cas de Caroline et Denise, la possibilité d'imaginer un nouveau rôle pour les femmes dans la sphère publique du commerce. La question qui se pose à cette époque, où de nouveaux modes d'échange interpersonnel commencent à s'instaurer, est la suivante. Est-ce que les femmes arriveront à façonner entre hommes et femmes une série de rapports hétérosociaux qui vont faciliter l'émergence de la femme dans la sphère publique? Au roman de la courtisane, Nana, roman de la promiscuité féminine peut-être, succèdent les romans de la promiscuité masculine symbolisés par Octave Mouret. Intéressant donc de noter la différence entre l'usage des dénouements romanesques classiques. D'abord la mort de l'héroïne, puis le ou les mariages du héros. Nana est punie pour les défauts de l'Empire décadent, son décès coïncidant bien entendu avec le début de la guerre de 70, la virilité française sapée par les débordements de l'appétit. Pourtant, les conquêtes d'Octave trouvent le fin non pas dans la mort, mais dans le mariage, où il fait une fin. Avec Caroline Edouin, vers la fin de Poubouille, et avec Denise Baudu, à la fin de son deuxième roman, Au bonnet des dames. Mais dans la logique de la série zolienne, nous n'aurons pas, à vrai dire, accès au roman de ces mariages. Caroline est oubliée dans le hiatus qui sépare les deux romans, tandis que la vie de Denise est seulement évoquée dans ce cinquième chapitre du Docteur Pascal, qui résume les 19 romans précédents en apportant une conclusion sommaire à la biographie de le zéro et héroïne. Zola retourne dans la débâcle à cette guerre qui a déjà commencé dans les pages ultimes de Nana. Le langage critique de l'homos et de l'hétéros nous permet de revisiter le rôle de sexualité et de fraternité qui y caractérise la représentation zolienne du républicanisme. La révolution politise le concept de fraternité de façon diverse, qui continue de nos jours à influencer le lexique de la politique moderne. Le terme fraternité insiste non seulement sur son origine familiale, mais aussi sur un contexte politique défini par le discours de la Révolution. Comme on sait, la notion de la métaphoricité familiale explicite de 1789 a été étudiée avec grand profit par l'historienne Lynn Hunt dans son étude « Le roman familial de la Révolution », titre manifestement freudien qui perturbe les historiens plus que les critiques littéraires. Hunt, elle met l'accent sur une politique démocratique qui se fit comprendre en termes familiaux qui infiltrait le symbolisme de la société révolutionnaire. Par exemple, l'usage de jeux d'échecs et de cartes sans roi ni reine, et ainsi de suite. Mais, au XIXe siècle, est-ce qu'on ne trouve pas réciproquement une vision de la famille et surtout de la fraternité qui se comprend en termes politiques ? C'est le cas dans ce vaste roman de la guerre franco-allemande qui, dans ses trois parties, manipule explicitement la métaphore de la fraternité entre soldats et citoyens, surtout entre Jean et Maurice. Protagonistes qui partagent une fraternité d'armes, mais qui finissent dans la troisième partie par se ranger aux camps adversaires pendant la Commune. Jean représente un personnage de soldat d'âge mûr qui suit toujours le drapeau, tandis que Maurice réagit contre le paternalisme manqué de Napoléon III en se tournant vers un fraternalisme absolu. Napoléon III, représenté à plusieurs reprises comme figure pathétique et féminisée. Cette adversité, cette guerre civile, qu'est-ce que c'est sinon un conflit entre frères ? Un fratricide collectif qui a pour but, des deux côtés, la redéfinition de la fraternité républicaine. Dans un article qui paraît dans le Figaro du 1er septembre 1891, à l'occasion du 21e anniversaire de la bataille de Sedan, quelques mois avant la publication du roman, Zola indique que le retour au sujet même de la guerre et de la Commune offre l'occasion de reformuler le principe de fraternité qui sous-tend la Nouvelle République. Pendant la guerre, il y avait, écrit-il, des crimes de lèse-patrie commis par la nation entière et où chacun de nous avait sa part de responsabilité. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune honte à faire cet examen de conscience. Zola refuse donc de mentir, de refouler, mais aussi de culpabiliser. La guerre, continue-t-il, c'est la fraternité devant le péril. Zola conçoit la terre et la débâcle comme un diptyque dont l'élément unificateur est le paysan Jean qui devient soldat, et retrace ainsi le déplacement décrit dans l'étude d'Eugène Weber, La fin des terroirs. C'est le chapitre ultime de la terre qui fait le pont entre terre et guerre. Jean est paysan et soldat, exhibant donc un double rapport à la terre, terre cultivée puis défendue, sillonnée puis dévastée, site de l'agriculture pérenne, puis échiquier, jeu associé dans le roman avec Bismarck, où les pièces se déplacent sans cesse. Ayant déjà servi pendant la guerre d'Italie, Jean est attiré par la vie militaire encore une fois, cette fois par les bruits de guerre dans le journal. Pourtant, ce qui l'attire n'est pas un véritable amour de la patrie ou un simple amour de la patrie, mais une réponse fataliste des espoirs après la mort de sa femme, la bien nommée Françoise. Les gens étaient trop canailles, ça le soulageait l'espoir de démolir des Prussiens. Et puisqu'il n'avait pas trouvé la paix dans ce coin où les familles se buvaient le sang, autant valait-il qu'il retournât au massacre. Ce n'est pas alors un amour du pays natal, tout simplement, qui inspire Jean, mais une certaine abjection fondée sur le dysfonctionnement du système familial de la vie de campagne. Et le rôle de la terre est explicite dans ce récit d'un revanchisme d'un revanchisme qui précède la guerre de 70. Le sentiment de revanche étant associé normalement à l'après-guerre, bien entendu. Plus il en tuerait, plus la terre serait rouge, et plus il se sentirait vengé dans cette sacrée vie de douleur et de misère que les hommes lui avaient faite. En fin de compte, la terre que la guerre est censée protéger excède les exigences et les contingences du processus historique. C'était, comme ces histoires de révolution, ces bouleversements politiques qu'on annonçait. Le sol, disait-on, passerait en d'autres mains, les moissons des pays de là-bas viendraient écraser les nôtres, il n'y aurait plus que des ronces dans nos champs. Et après, est-ce qu'on peut faire du tort à la terre? Elle appartiendra quand même à quelqu'un qui sera bien forcé de la cultiver pour ne pas crever de faim. Si pendant des années, les mauvaises herbes y poussaient, ça la repousserait. Elle en redeviendrait jeune et féconde. La terre n'entre pas dans une querelle d'insectes rageurs. Elle ne s'occupe pas plus de nous que des fourmis. La grande travailleuse éternellement à sa besogne. Quand il paraît pour la première fois au début de la débâcle, Jean Macquart, figure de solidité, dresse une tente. Il s'occupait, dit-on, à consolider la tente en enfonçant les piquets davantage. Là où la guerre impose déplacement, déracinement, voire nomadisme, et une tente, c'est l'oxymore d'un foyer mobile, d'un mobile home, n'est-ce pas ? Jean promet solidité et fixité. Mais le narrateur nous rappelle immédiatement la tragédie de cette double dépossession vers la fin de la terre qui le persuade de rentrer à l'armée. Au premier bruit de guerre, il avait quitté Rognes, tout saignant du drame où il venait de perdre sa femme Françoise et les terres qu'elle lui avait apportées. La guerre, bien entendu, offrira une autre histoire de dépossession, cette fois pour la France elle-même. Maurice, pas contre, théorise et généralise la guerre, y voyant la logique darwinienne de l'existence tout court. Maurice était pour la guerre, la croyait inévitable, nécessaire à l'existence même des nations. Cela s'imposait à lui, depuis qu'il s'est donné aux idées évolutives, à toute cette théorie de l'évolution qui passionnait dès lors la jeunesse lettrée. Est-ce que la vie n'est pas une guerre de chaque seconde? Est-ce que la condition même de la nature n'est pas le combat continu? La victoire du plus digne, la force entretenue et renouvelée par l'action, la vie renaissant, toujours jeune de la mort. En mesurant cette distance entre les années 90 et 70-71, Zola boucle la boucle des Hugo Macquart comme projet littéraire. Car le moment historique évoqué dans la débâcle, c'est bien sûr le moment où Zola entame son vaste projet en tant qu'associé de cette jeunesse lettrée. Intéressant de remarquer qu'à ce moment de crise, la géographie de la patrie se comprend chez Zola en termes de sororité. Dans un article dans la Marseillaise du 6-7 octobre 70, il fait appel à la province. « Ville de France, la cité immense, votre grande sœur, celle qui rayonne sur le monde, vous appelle à son secours. Vous êtes ses gardiennes aujourd'hui, vous, ses sœurs cadettes. » Mais au fur et à mesure s'affirme la distance entre Zola libéral et Maurice Communard. Difficile donc de voir chez Maurice le lettré, un porte-parole de Zola le lettré. Zola se distancie du radicalisme en nommant le révolutionnaire Chouteau le pervertiseur, qui veut semer le désaccord, encourageant Maurice à réagir contre Jean après une scène d'humiliation. C'est bien le cas de jeter les deux hommes l'un sur l'autre. Mais à la fin de ce deuxième chapitre, Maurice a oublié son amertume et le narrateur pose la question « Est-ce que la fraternité des mêmes fatigues et des mêmes douleurs subies ensemble qui ont emporté ainsi sa rancune ?» Les circonstances de la guerre mettent en valeur la compagnie et la cohabitation des personnes du même sexe, surtout des hommes. Cette homosociabilité s'impose dans une situation de corporéalité avant, pendant et après la bataille. Vers la fin du premier chapitre du roman, la proximité corporelle de ces deux adversaires sur le plan idéologique est mise en évidence. Si je me déplace, Jean resta sans bouger, serré contre Maurice. Malgré sa grande fatigue, il tardait à s'endormir. Tout ce qu'avait dit ce monsieur lui tournait dans la tête. L'Allemagne en armes, innombrable et dévorante. Et il sentait bien que son compagnon non plus ne dormait pas, pensait aux mêmes choses. Puis, celui-ci eut une impatience, un mouvement de recul, et l'autre comprit qu'il le gênait. Entre le paysan et le lettré, l'inimitié d'instinct, la répugnance de classe et d'éducation étaient comme un malaise physique. En traversant Roucourt, dans la marche à la Meuse, le lien entre homosociabilité et fraternité s'affirme. Jean, aidant le faible Maurice, Maurice s'abandonna à son bras, se laissa emporter comme un enfant. Jamais bras de femme ne lui avait tenu aussi chaud au cœur. Dans l'écroulement de tout au milieu de cette misère extrême, avec la mort en face, cela était pour lui d'un réconfort délicieux, de sentir un être, l'aimer et le soigner. Et peut-être, l'idée que ce cœur tout à lui était celui d'un simple, d'un paysan, resté près de la terre, dont il avait eu d'abord la répugnance, ajoutait-elle maintenant à sa gratitude une douceur infinie. N'était-ce point la fraternité des premiers jours du monde, l'amitié avant toute culture et toute classe, cette amitié de deux hommes unis et confondus en le commun besoin d'assistance devant la menace de la nature ennemie. On avait beau ne pas s'embrasser, on se touchait à fond et on était dans l'autre si différent que l'on fut sur cette terrible route de Rémy, l'un soutenant l'autre, ne faisant plus qu'un être de pitié et de souffrance. Au chapitre suivant, il se rend à la ferme du père Fouchard, près de la Meuse. Quand son oncle refuse de donner à manger à Jean, Maurice se plaint ainsi. « Jean est un frère. Il s'est arraché pour moi les morceaux de la bouche. » Et la veille de la bataille de Sedan, au dernier paragraphe de la première partie de cette structure romanesque ternaire, Maurice n'arrive à s'endormir qu'en prenant la main de Jean. Cette politique culturelle de l'homosociabilité masculine apparaît clairement au début de l'ébauche du roman, quand Zola montre qu'il ne veut pas donner à une femme un rôle important. L'intérêt romanesque s'en trouvera réduit. Cela sera compensé, écrit-il, par la peinture complète, profonde, poignante, de toute l'amitié qui peut exister entre deux hommes. Vers la fin de l'ébauche, pourtant, il semble abandonner peu à peu son intention première d'écrire un roman sans personnage féminin important. « Je voudrais avoir d'autres femmes. » Mais le second plan, détaillé, met l'accent sur la coprésence des deux hommes. Le chapitre ultime de la première partie du roman met en scène Jean et Maurice dans des draps. Une fois à Sedan, Maurice rend visite à la fabrique de draps, l'usine des Delarche, où travaille son beau-frère Weiss, nom alsacien qui signifie le blanc, et ici la page ou le drap sans inscription. Selon Jean, la sœur de Maurice, Henriette, est d'une ressemblance frappante avec Maurice, de cette extraordinaire ressemblance des jumeaux qui est comme un dédoulement des visages. Mais Zola souligne l'illusion de ressemblance. L'idéalisme d'Henriette, qui met en cause le zèle guerrier de son frère, reflète une différence de nature qui s'impose dans les dernières pages de la première partie du roman. Ce qui restait frappant, c'était sa ressemblance avec son frère, et cependant, toute la différence de leur nature s'accusait profonde à cette minute. Lui, d'une nervosité de femme, ébranlée par la maladie de l'époque, subissant la crise historique et sociale de la race, capable d'un instant à l'autre des enthousiasmes les plus nobles et les pires découragements, elle, si chétive dans son effacement de Cendrillon, avec son air résigné de petite ménagère, le front solide, les yeux braves, du bois sacré dont on fait les martyrs. Différence de nature comprise immédiatement en termes culturels, voire mythologiques. De fait, il n'y a pas de coïncidence exacte entre fraternité et nationalité. Malgré le rapport métonymique qui s'exprime dans la notion de patrie, c'est-à-dire de pays comme famille, l'extension de l'axe horizontal de frères et sœurs comprend sans doute les cousins et, suivant la mort de son mari Weiss, Henriette n'arrive guère à restreindre son frère Maurice quand il se trouve en face de son cousin Günther, un soldat allemand. Pas entre parents, pas entre gens qui se connaissent. C'est abominable, dit-elle. Ce ne serait pas le fratricide, mais peu s'en faut. Zola s'en va en voyage d'enquête le 17 avril 91. Son voyage à Sedan, comme il l'appelle dans l'article qu'il écrit là-dessus pour le Figaro. Sedan étant le sujet de la seconde des trois parties du roman. Le 19, Zola s'arrête devant ce qu'il nomme l'immense horizon vu, Bazeilles, Sedan, la forêt des Ardennes. Et comme Henri Mitterrand explique dans sa biographie, Schiffayer, il médite sur la prédisposition de certains lieux à attirer l'histoire, H majuscule. Zola va rester à Sedan du 20 au 26 avril et va à Bazeilles par la route de Ballan, y visitant la maison de la dernière cartouche. On lui raconte sur place le martyr des habitants de Bazeilles, raconté au quatrième des huit chapitres de cette seconde partie, donc au plein centre du roman. Et il existe des sources textuelles inspirées par ce voyage même, qui n'est pas le travail secret d'un romancier magicien qui surprendra son public, mais un acte public d'authentification de son récit. Toute la presse a parlé de ce voyage. De nombreuses lettres d'anciens combattants arrivent rue de Bruxelles et ajoutent au dossier de la débâcle de nouveaux documents qui étaient le point de vue de l'homme du rang en multipliant les petits faits vécus. Voici une sorte de recherche collective, une sorte de réactivation ou préactivation d'un lectorat qui sera énorme. Mais l'inspiration la plus célèbre pour l'histoire de Bazeilles est sans doute un tableau de 73 par Alphonse Neuville, un des meilleurs peintres militaires après Meissonnier. Et ce tableau s'appelle « Les dernières cartouches ». Facile de simplifier les rapports entre écrivains et artistes de la Troisième République, comme si Zola ne s'intéressait qu'aux impressionnistes, tout simplement. Mais il connaissait d'autres artistes et leurs œuvres, il va sans dire, et depuis longtemps, y compris le plus important des peintres de la guerre de 70, Édouard de Taille, qui a produit ce tableau qui domine le salon de 88, Le Rêve. Intéressant de remarquer que dans le dossier de la débâcle se trouve la carte visite de De Taille, portant des cancés écrits à la main sur les sources pour vérifier l'authenticité des descriptions des uniformes dans le roman. L'image de De Taille étant répétée un peu partout, comme celle de Neuville, emblématiquement dans ce tableau peint par Paul le Grand en 97. Ça s'appelle « Devant le rêve de De Taille » et il se trouve maintenant à Nantes, au musée de Nantes. Et souvent, reproduite pendant la Grande Guerre dont nous commémorons maintenant le centenaire lui-même. Et là, vous ne voyez pas peut-être, mais... Là s'écrit le mot à l'horizon victoire. Victoire. Victoire 14. 1914. Ce que je voudrais mettre en lumière, tout simplement, c'est la façon dont une description par Zola, celle de Bazeilles, peut être comprise dans le contexte d'une série de représentations du même épisode, représentations antérieures et postérieures à celle de Zola au début des années 90. Et Zola est conscient du poids de l'histoire des représentations. Quant aux environs Bazeilles, tiendra sa place dans la partie stratégique de la bataille, écrit-il. Mais rien de plus. Tout le monde a écrit des pages là-dessus. Aujourd'hui, c'est le convoi du pauvre. Et je ne tiens pas à refaire la dernière cartouche de Neuville. Et cette saturation est, bien entendu, fascinante pour un historien culturel de la littérature, étant donné la représentation de cet épisode en musique, chez les historiens, au théâtre, en gravure et carte postale. Même le cinéma de Georges Méliès s'intéresse à ce sujet, comme nous voyons dans un court-métrage de 97 que j'aurai peut-être le temps de vous montrer après nos communications. On trouve dans la version zolienne de Bazet un mélange de soldats français et de civils, comme si la problématique dans l'écriture du roman fut la suivante. Comment écrire un roman pour la France entière sans gommer les différences idéologiques dans une version sentimentalisée et kitsch de la guerre? Autrement dit, en pensant à l'étymologie du terme, est-ce que la conscription, c'est-à-dire une écriture par et pour tous, une écriture authentiquement naturaliste peut-être, est-ce qu'elle est vraiment possible? Et la différence fondamentale entre les versions de Neuville et Zola, c'est la présence des civils chez Zola, c'est-à-dire Laurent Jardinier et le beau-frère de Maurice, Weiss. Celui-ci, myope, comme cet autre civil qui n'a pas pris l'uniforme, Zola lui-même, qui nous fournit une conscription littéraire, au-delà de la conscription militaire qu'il n'a pas connue. Tellement puissante est cette scène de Bazet dans l'imaginaire patriotique que même l'éminent critique universitaire Émile Faguet offre l'éloge remarquable de cet épisode. Le plus beau des épisodes qui se détache en relief, qui sera classique demain et que vous trouverez partout, est la défense de Bazeille et particulièrement de la maison de Weiss l'Alsacien. La bataille obstinée, furieuse, enragée, dans une soif ardente de mourir et de se venger avant de mourir. Ce sont les dernières cartouches de M. Émile Zola. C'est une des choses les plus belles qu'il ait écrites et que n'ait écrites. Pour Faguet, bien entendu, le terme classique n'est guère dépourvu d'importance. La défense de cette petite maison à Bazeille, dans l'absence de Maurice et Jean, incarne l'héroïsme des Français et joue un rôle important dans un grand débat qui émane du roman. Zola, est-ce que c'est un romancier patriotique ou non? Si la maison, dans les versions de Bazeille, chez Zola et Neuville, est un espace d'homosociabilité masculine, il faut se rappeler que la présence de la femme de Weiss, Henriette, anime les scènes qui précèdent et suivent cet extrait. Avant cette scène, le lecteur témoigne du suspense du trajet d'Henriette qui marche dans le sens inverse de l'armée française parce qu'elle veut trouver et sauver son mari qui est resté à Bazeille. Henriette arrivera juste à temps pour devoir regarder l'assassinat de son mari par les soldats bavarois. Une image mise en exergue par la publicité de l'imprimerie Émile Lévy pour le deuxième feuilleton du roman dans le Radical, le roman ayant déjà paru dans la vie populaire. En termes de l'intrigue du roman, l'effet principal du quatrième chapitre de la deuxième partie du roman est de rendre veuve la femme de Weiss, Henriette. Suite à la perte de son mari, elle soigne Jean qui a été blessé. Et il devient clair qu'il développe un amour non dit entre ce paysan héroïque qui défend le nouveau régime versaillais contre la Commune et résiste, du point de vue de Zola, aux excès politiques de Maurice, le front solide, les yeux braves d'Henriette, auquel j'ai déjà fait référence, ressemble moins à la nervosité de femme de son frère, Maurice, et plus au stoïcisme de Jean. On dirait même des jumeaux politiques, hétérosexualisant la fraternité républicaine. Jean, comme le savent les lecteurs de la Terre, lui-même veuf. Et cet amour non dit devient un amour interdit à cause du rôle de Jean dans la mort du frère d'Henriette, Maurice. Dans le premier chapitre de la troisième et dernière partie de la débâcle, ce discours de fraternité militaire habituel dans le roman se trouve nuancé après la défaite de Sedan. Des soldats, et je cite, des soldats tombés fraternellement avec les arbres. L'arbre non seulement vertical, intergénérationnel, mais horizontal, c'est-à-dire fraternel. Le désir d'évasion, après la détention qui a suivi la défaite de Sedan, renforce l'homosociabilité de la fraternité. Maurice pleurait à gros sanglots, tandis que des larmes lentes ruisselaient sur les joues de Jean. C'était la détente de le long tourment, la joie de se dire que la douleur allait peut-être avoir pitié d'eux. Et ils se serraient d'une étreinte éperdue dans la fraternité de tout ce qu'ils venaient de souffrir ensemble. et le baiser qu'ils échangèrent alors le parut le plus doux et le plus fort de leur vie, un baiser tel qu'il n'en recevrait jamais d'une femme. L'immortelle amitié, l'absolue certitude que nos deux cœurs n'en faisaient plus qu'un pour toujours. Pourtant, dans une référence géographique, sexuelle, et là je pense au bel article de Michael Rosenfeld dans les cahiers de il y a 2 ans, hein, n'est-ce pas?
Oui.
En 2015. Hein. Donc, dans une référence géographique, sexuelle, mais aussi narratologique,
je crois,
Jean insiste, nous ne sommes pas au bout, faudrait s'orienter un peu. Maurice retourne à Paris et participe à la Commune, qui trouve sa métaphore biologique dans le refrain d'avortement extrapolé par Zola. Lui et Jean se séparent, l'un incapable de persuader l'autre. Le dernier chapitre de ce roman épique, chapitre qui traite de la semaine sanglante et où moi je vais conclure, est précédé par le coup mortel qu'entre Maurice, porté par Jean dans ce que le narrateur appelle pertinemment cette guerre fratricide, avant que le paysan ne reconnaisse le nerveux lettré. Pour Maurice, l'ironie désarme le thanatos. Mourir, il voulait, écrit Zola. Mais mourir de la main de son frère, c'était trop, cela lui gâtait la mort. Et ça gâte également toute possibilité de consommation amoureuse entre ce qui serait peut-être le couple idéal de la Nouvelle République, Jean et Henriette. Comment donc épouser les différentes traditions républicaines? Est-ce que cet amour républicain idéal peut survivre au souvenir de la Commune? Et comment aimer l'homme qui a tué votre frère? Voilà les questions qui s'imposent et qu'impose la Commune dans la 3e partie du roman et que j'offre en guise de conclusion. Merci.